agents britanniques qui travaillaient au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin.
Les deux bombes ont éclaté quelques minutes d'intervalle pendant que Fidel Castro parlait à 100 000 Cubains. Son discours a duré 3 heures, pendant lesquelles il a brodé sur le thème de l'impérialisme yankee. Castro a dit à la première, c'est encore un pétard de l'impérialisme. À la seconde, il a fulminé, tout ceci coûtera cher à son Excellence, l'ambassadeur des États-Unis à Cuba.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Durant un demi-siècle, les relations ont été exécrables entre les États-Unis et Cuba. Cuba, qui n'est distante pourtant que de 150 km de la côte américaine. Et voici que depuis quelques semaines, on assiste à un soudain réchauffement diplomatique dont on avait pourtant guère aperçu jusqu'alors de sérieux prodromes. Barack Obama et Raúl Castro, les deux chefs d'État, ont en effet annoncé leur volonté de normaliser à court terme leurs relations. L'intervention du Vatican, renouant avec une ancienne tradition d'efficacité diplomatique en Amérique latine, semble avoir été féconde, celle du pape argentin François, celle de son secrétaire d'État Parolin, ancien nonce au Venezuela, et surtout celle, éminente, c'est le cas de le dire, du cardinal archevêque de la Havane, Monseigneur Jaime Ortega. Mais comme bien l'on pense, cette efficacité n'a pu se déployer que parce qu'un certain nombre de facteurs ont joué dans le même sens, dans l'ordre politique comme dans l'ordre économique. Et cela sur un fond de tableau qui s'est trouvé, ainsi qu'il advient toujours, puissamment modelé par l'histoire, depuis la fin du 19e siècle au moins, qui a vu le colonisateur espagnol délogé de Cuba par la jeune puissance américaine. Une durée qui a été marquée par de nombreux moments de tensions extrêmes et beaucoup d'incompréhensions mutuelles parmi un tourbillon de passions et d'intérêts entremêlés qui ont fait surgir bien des personnalités hautes en couleur dont Fidel Castro n'est pas le moindre. Yves Saint-Jour, mon invité, qui a été notre ambassadeur au Brésil, est aussi un historien reconnu de l'Amérique latine. Je l'accueille donc avec une gratitude anticipée pour les lumières qu'il va à coup sûr nous apporter.
Venimos a defender la revolución cubana, venimos a defender la revolución cubana, porque es hermana gemela de la lucha americana, porque es hermana gemela de la lucha americana. Y Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí y aquí no, Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí y aquí no. Fidel Castro con su pueblo luchará en forma unitaria, Fidel Castro con su pueblo luchará en forma unitaria para imponer contra el yanqui la hermosa reforma agraria, para imponer contra el yanqui la hermosa reforma agraria. Y Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí y aquí no, Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí y aquí no. Los americanos que Fidel es comunista, dicen los americanos que Fidel es comunista, y no han dicho que Batista mató a 20.000 cubanos, y no han dicho que Batista mató a 20.000 cubanos. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí y aquí no, Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí y aquí no. Ese yanqui con sus armas a Cuba quiere invadir, ese yanqui con sus armas a Cuba quiere invadir, pero pisando esta tierra aquí le toca morir, pero pisando esta tierra aquí le toca morir. Cuba sí, Cuba sí,
Yves Saint-Jour, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'entendre une chanson de Carlos Puebla, Carlos Manuel Puebla, Cubasí Yanquino. C'est une chanson qui remonte au début du règne de Fidel Castro à Cuba. Pouvez-vous nous dire un peu ce que nous avons entendu en traduisant quelques morceaux de ce texte en français ?
Bien sûr, effectivement, c'est un texte révolutionnaire et qui affirme que la révolution menée par Fidel Castro, avec un peuple uni autour de lui, va l'emporter, imposer la réforme agraire contre les Américains, qui sont ceux qui possèdent une partie des terres, gagner ce combat et empêcher l'invasion, puisque effectivement ils disent aussi que les Yankees veulent envahir l'île. Donc voilà, c'est un moment de mobilisation autour de Fidel et de la Révolution. Tout de suite, dès l'arrivée de Fidel et de ses troupes à la Havane, les chansons deviennent très politiques.
Carlos Puebla avait d'ailleurs été lui-même un chanteur qui avait commencé par les chansons d'amour, mais qui s'était marqué contre la dictature de Batista.
Exactement. Il est d'ailleurs question aussi de la dictature de Batista dans cette chanson, hein, pour vous dire que voilà, les choses sont terminées. Carlos Puebla continuera, accompagnera, même dira des choses assez politiquement correctes, je dirais, sur le pouvoir en place. Un commandant, tu es arrivé. Et puis, il fera une chanson qui est extrêmement célèbre, que tout le monde connaît, sur le Che Guevara.
Oui, on l'a appelé le chanteur de la révolution cubaine.
Et
il est mort prématurément en 89. Et je vois que sur sa tombe, il est né à Manzanillo, près de Santiago de Cuba. On a inscrit « Je suis ce que je suis ». Un simple troubadour qui chante. Mais c'est un troubadour assez efficace.
Oui, c'est un troubadour très efficace, effectivement. Et Manzanillo, c'est une des régions les plus proches de la Révolution, proches des endroits où commence la Révolution.
Et où la musique prend toujours une couleur, une force, une intensité spécifique.
Absolument. Cuba étant le creuset de beaucoup de musique latino-américaine.
Alors nous allons, Yves Saint-Jour, nous allons prendre du recul, comme c'est notre devoir, notre office, notre plaisir ici, dans cette émission, et remonter même au-delà de la libération par les Américains, comme les Américains l'ont dit, à un moment Cuba, la libération de l'emprise coloniale espagnole sur l'île en 1898. Il faut remonter en fait au XVIIIe siècle.
Absolument. Cuba, ce n'est pas une île comme les autres, c'est de l'Empire espagnol. C'est un endroit très particulier depuis la découverte, hein, dès le premier voyage de Colomb, quelques jours après être arrivé dans les premières îles, il touche au rivage de Cuba, dès le 20 octobre 1492. Et Cuba devient ensuite un lieu à la fois stratégique, qui tient une partie du golfe du Mexique, un lieu commercial, d'échange. Mais jusqu'au XVIIIe siècle, ce n'est pas tellement un endroit où on cultive. Et c'est au moment de la guerre de Sept Ans, dans les années donc 1756-1763, que les choses changent, que la Havane est occupée par les Anglais. Et à la suite du traité de Paris de 1763, en réalité, l'île devient l'île à sucre, la grande île à sucre, avec une arrivée massive d'esclaves. Le sucre devient vraiment presque une monoculture à Cuba. Et c'est encore accru par ce qui se passe au début du 19e siècle, à la suite de la guerre de l'indépendance d'Haïti. La production à Haïti s'effondre, des gens viennent d'Haïti, et donc Cuba devient alors vraiment un centre encore plus important. Et c'est à cette fin du 18e siècle qu'est l'origine, au fond, de l'économie cubaine du sucre, du tabac, de l'esclave, et donc de cette position particulière de Cuba dans l'Empire espagnol et dans les Caraïbes.
En somme, les grandes données de la prospérité de l'île sont en place, qui expliquent toute l'histoire ultérieure que nous allons avoir à évoquer.
Exactement.
En dépit du déclin de l'Espagne au long du 19e siècle, jusqu'en 1898, l'emprise coloniale sur Cuba demeure sous le regard des Américains qui ne s'en accommodent guère.
Exactement. Et après les guerres d'indépendance qui libèrent l'ensemble de l'Empire espagnol et de l'Empire portugais au début du 19e siècle, Cuba reste arrimé à l'Espagne. tout le continent est désormais indépendant. Une partie des îles qui appartenaient à l'Espagne aussi. Et Cuba reste la seule possession de l'Espagne dans les Caraïbes avec Puerto Rico. Et c'est sur cette île, en quelque sorte, que se focalise la velléité espagnole de garder pied dans l'hémisphère occidental, pour dire les choses ainsi.
C'est bien ce que les États-Unis refusent. Et au fond, quand on entend tout récemment, pour annoncer ce réchauffement des relations, quand on entend le président Obama dire « Todos somos americanos », ai-je besoin de traduire, nous sommes tous américains, on porte cette sorte de frustration, indirectement, qui était celle des États-Unis à la fin du 19e siècle, d'avoir à leur porte cette sorte de reste, de but témoin d'une colonisation dépassée.
Exactement. Et ce qui se passe, il faut regarder l'histoire des États-Unis en parallèle, c'est qu'ils ont progressivement assuré leur territoire continental et après, ils ont commencé à dominer la Caraïbe et dominer ce qui va devenir leur arrière-cour, comme on dit.
On peut rappeler ce qu'était la doctrine de Monroe.
Effectivement, l'Amérique aux Américains. Et cette Amérique aux Américains, c'était, évidemment, il y avait un double sens. Ça pouvait être les Européens en dehors de l'Amérique, parce que les Américains du Nord au Sud sont maîtres de leur destin, ou l'Amérique aux Américains, c'est-à-dire, au fond, toute l'Amérique aux États-Unis, dans une certaine mesure.
Oui, la doctrine de Monroe, c'est le président Monroe qui a émis cette doctrine en 1823.
Exactement. Et donc, l'expansion américaine va continuer, avec, évidemment, une parenthèse qui va arrêter cette expansion, c'est la guerre de sécession. Mais tout de suite après, une fois que les choses se sont rétablies aux États-Unis et que le développement économique continue, toute la fin du 19e siècle est évidemment un moment de grande expansion des États-Unis. Et c'est le moment, effectivement, où toute cette région du monde commence à rentrer dans cette orbite parce que, très naturellement, le capitalisme américain se développe, les échanges aussi. Vous avez dit tout à l'heure que la côte cubaine est à 150 km des dernières îles de Key West au bout de la Floride. Et donc, effectivement, très naturellement, les choses vont commencer à bouger.
Avec cette ambivalence, c'est-à-dire qu'on refuse hautement l'idée de la colonisation dans son principe au profit de l'Espagne, mais que, du point de vue américain, on n'exclut pas que... Comment dire, il y a une zone d'influence. Écoutez donc cette citation de John Quincy Adams, qui était précisément secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères au temps du président Monroe, et qui écrivait à un correspondant « La politique obéit, comme la physique, aux lois de la gravitation. Et de même qu'une pomme arrachée à l'arbre natal par la tempête ne peut que tomber sur le sol, on n'est pas très longtemps après Newton, de même Cuba, arrachée par la violence de ses liens contre nature avec l'Espagne, et incapable de se gouverner elle-même, ça c'est de longue durée, incapable de se gouverner elle-même, ne peut que graviter dans la direction des États-Unis qui, obéissant à la même loi naturelle, ne peuvent la rejeter de leur sein. Voilà une épigraphe qui pourrait être celle de toute notre émission, Yves Saint-Jean.
Absolument. Et c'est vrai que les États-Unis, notamment dans la dernière partie du 19e et le début du 20e, vont progressivement englober cet espace, et pas seulement Cuba. Il faut voir qu'ils se mettent à dominer l'ensemble de cette région. Mais je crois qu'il faut aussi dire que parallèlement, à Cuba, il se passe beaucoup de choses, puisque ce pays n'est pas indépendant et qu'il cherche lui aussi son indépendance. Parce qu'il y a une classe, disons, ouvrière, celle du tabac, qui s'est progressivement construite. Et puis, il y a ces esclaves dans les grandes plantations sucrières. Donc, il y a tout un mouvement aussi pour se libérer à Cuba.
Esclaves jusqu'à quand ?
Jusqu'en 1886, c'est-à-dire très tard.
Comme au Brésil.
C'est l'avant-dernier pays, le Brésil étant le dernier en 1888. Donc, l'économie esclavagiste reste très longtemps. Et parallèlement, l'économie du tabac, elle, se développe beaucoup avec des ouvriers qualifiés, réunis dans de grandes fabriques et qui deviennent d'ailleurs une élite, si j'ose dire, de la classe ouvrière. En tout cas, il y a aussi à Cuba vraiment des ferments révolutionnaires qui vont donner lieu à une première guerre d'indépendance entre 1868 et 1878, la guerre des 10 ans, qui va échouer contre les Espagnols, et puis qui vont donner lieu à une deuxième guerre d'indépendance qui commence en 1895.
Alors nous allons en raconter le détail pour réfléchir à ce que ce souvenir peut impliquer encore aujourd'hui. Mais d'abord cette chanson qui correspond à ce temps-là, cette chanson qui s'appelle « Cuba Libre », enfin en anglais, par Jerry Silverman, qui met en musique l'aspiration qui a été celle des États-Unis, avec beaucoup de sincérité, mêlée peut-être avec quelques arrière-pensées, de libérer la colonie espagnole Cuba du joug qui l'opprime.
Our eyes have seen fair Cuba with 400,000 slain. We have seen our slaughtered seamen. We have seen the stricken main. And the hand that wrought the ruin was the dastard hand of Spain. Our host is marching on. Forward, forward, Cuba Libre. Forward, forward, Cuba Libre. Forward, forward, Cuba Libre. Our host is marching on. Our eagle from his eyrie sees the vulture down below. He is sweeping from his hilltop, beak and talons toward the foe. With the war cry, Cuba Libre, all the dons will have to go. Our host is marching on. Forward, forward, Cuba Libre. Forward, forward, Cuba Libre. Forward, forward, Cuba Libre. Our host is marching on. We have breathed the air of freedom, and our hearts are strong and true. We will halt not till fair Cuba breathes the air of freedom too. See our glorious banner floating o'er our solid ranks of blue. Our host is marching on. Forward, forward, Cuba Libre. Forward, forward, Cuba Libre. Forward, forward, Cuba Libre. Our host is marching on. We will bear the stars of freedom where the star of Cuba waves. Side by side we'll plant the colors in the land of many graves. Till a nation free emerges from a land of Spanish slaves. Our host is marching on. Forward, forward, Cuba Libre. Forward, forward, Cuba Libre. Forward, forward, Cuba Libre. Our host is marching on. With the whole world's gaze upon us, we will meet the hordes of Spain, and the blood of Cuban martyrs shall no more be shed in vain. We will rear a new republic, a memorial to the Maine. Our host is marching on. Forward, forward, Cuba Libre. Forward, forward, Cuba Libre. Forward, forward, Cuba Libre. Our host is marching on.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Je vous traduis, Yves Saint-Jour, une partie de ce chant de guerre qu'on imagine avoir été chanté par les troupes américaines allant vers Cuba pour la libérer. Notre aigle, depuis son aire, voit le vautour en bas, en enfer. Il avance depuis le haut de la colline avec son bec et ses serres dirigés vers l'adversaire, avec le cri de guerre « Cuba libre, Cuba libre ». Tous les Espagnols devront s'en aller. Puis il y a ce vers que vous devez nous expliquer. Nous avons vu nos marins abattus, nous avons vu le Maine, c'est un bateau, le Maine frappé. De quoi s'agit-il ?
Il s'agit de quelque chose qui est d'ailleurs resté un peu inexpliqué dans l'histoire. C'est qu'effectivement, en février 1898, un bateau, le Maine, explose dans la rade de la Havane.
Bateau américain, comme
son
nom l'indique.
Bateau américain, et l'équipage est tué, c'est terrible. Et ça va être le prétexte du déclenchement de la guerre.
Attendu et prévu.
Attendu et prévu, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la guerre d'indépendance, elle a commencé en 1895, c'est-à-dire 3 ans auparavant, sur la base de mouvements dont j'évoquais un tout petit peu les origines, avec un grand leader qui va d'ailleurs mourir dès 1895 dans les premiers combats, qui s'appelle José Martí.
Qui reste une figure...
qui reste la figure tutélaire. Emblématique, tutélaire, à laquelle on se réfère toujours, qui est sur toutes les plages de village. Et donc cette guerre n'en finit pas, elle ne débouche pas, ça fait 3 ans qu'elle est menée, elle ne débouche pas. Et effectivement, c'est le moment, l'explosion du Maine, où les États-Unis vont, à partir de cet événement, débarquer, venir et, au fond, en finir très rapidement avec les Espagnols, puisque dès le mois de juin, la flotte espagnole est coulée.
Mais attendez, le Maine, il avait été coulé par... un acte de guerre ou est-ce que c'est un accident? Est-ce qu'on le sait?
On ne le sait pas vraiment. Il semble que ce soit plutôt un accident. En tout cas, il n'y a aucune certitude sur ce point. Mais selon toute vraisemblance, il semble que ce ne soit pas un acte de guerre.
Voilà. Donc c'était vraiment une fois de plus la part du hasard en histoire.
Mais ce qui était sûr, c'était que les États-Unis étaient en train d'agir de plus en plus. Et d'ailleurs, ça va très vite en réalité. Il y a une mobilisation immédiate. Ça devient quelque chose d'assez populaire.
Le général espagnol est d'une grande brutalité et d'une grande médiocrité.
Exactement, il y a des massacres. Et très vite, il y a une popularité de cette guerre américaine aux États-Unis, notamment avec quelqu'un qui va devenir fort important ensuite, c'est Theodore Roosevelt, qui à la tête des Rough Riders, de sa cavalerie, va agir et va battre les Espagnols assez rapidement. Tout ça donne
le futur président des États-Unis,
Theodore Roosevelt, et le futur... C'est ça un petit peu l'ironie de l'histoire. Celui qui va formuler ce qu'on appelle la big stick diplomatie, c'est-à-dire parler doucement avec un gros bâton derrière le dos, et qui va être un petit peu, au fond, très bien appliqué à Cuba, puisque l'île, sortant de cette guerre, va être mise complètement sous contrôle des États-Unis.
On peut dire que c'est un tempérament assez offensif,
Theodore
Roosevelt.
Voilà, c'est un tempérament.
Tous les moments. Il y a aussi, au même moment, d'ailleurs, les Philippines.
Exactement.
Et, autre colonie espagnole.
Et c'est ça dont il faut bien se rendre compte et qui fait qu'il y a quelque chose de très original et de très spécifique dans cette histoire. C'est qu'effectivement, deuxième traité de Paris, 1898, on est en octobre de cette année, c'est-à-dire qu'entre février et octobre, tout est réglé, entre l'Espagne et les États-Unis, eh bien, Puerto Rico devient une île américaine. Elle l'est encore, dernière colonie espagnole de la Caraïbe. Cuba a vocation à devenir indépendante, on va voir dans quelles conditions. Et puis les Philippines aussi. Et donc c'est la fin de la présence espagnole dans cette région et le commencement de l'hégémonie américaine dans cette même région.
Les États-Unis qui refusent avec éclat le principe même de la colonisation... Et qui procède quand même à une marche vers une certaine domination, on peut dire ça.
C'est l'ambivalence de toujours. On peut le dire de façon tout à fait claire, parce qu'à partir du 1er janvier 1899, en réalité, ce sont les États-Unis qui gouvernent Cuba. Elle n'est pas indépendante. Elle ne devient indépendante qu'en 1902, après avoir adopté une constitution dont une des caractéristiques, c'est ce qu'on appelle l'amendement Platt, et qu'il donne aux États-Unis le droit d'intervenir à tout moment dès que leurs intérêts sont concernés. Et d'ailleurs, ils ne vont pas se gêner pour le faire en 1906, en 1917, etc.
L'amendement Platt, c'est un amendement américain qu'on impose à l'intérieur d'une constitution d'un pays supposé libre.
Supposé indépendant.
Cuba libre dans certaines limites.
Voilà, Cuba libre dans de grandes limites. Et pour comprendre 1959 et la suite, évidemment, il faut avoir tout ça à l'esprit. Et il faut savoir aussi, même époque, que c'est à ce moment-là qu'a lieu l'affaire de Guantanamo, c'est-à-dire la cession par Cuba de cette enclave de 117 km² de Guantanamo aux États-Unis à perpétuité. Et donc, le fait, effectivement, que les États-Unis préparent l'indépendance de Cuba, ils gouvernent presque directement de 99 à 1902, puis ils obtiennent cet endroit. Et il ne faut pas oublier non plus que c'est le moment où vraiment, avec l'acquisition de Puerto Rico, mais aussi avec un autre événement, qui est la création de l'État de Panama. En 1903, l'isthme de Panama se détache de la Colombie, pour devenir un État souverain, mais très peu souverain, puisqu'en réalité, c'est les actions du canal, les États-Unis, pour pratiquement un siècle. Et donc, il y a toute une réorganisation de cet espace caribéen, hein, Cuba, Porto Rico, Panama.
Toujours pas de colonisation, et pourtant.
Et pourtant. Et avec la big stick diplomatie, puis la dollar diplomatie, eh bien, il est clair que les États-Unis prennent pied, s'installent dans cette région du monde et que, disons-le comme il faut le dire, l'indépendance, elle est kidnappée par les États-Unis. C'est-à-dire que Cuba devient indépendante très tard et en plus, de quelle façon ? Il faut bien comprendre que c'est un pays sous hégémonie nord-américaine.
Politique et économique à la fois.
Et économique tout à fait, puisque très vite, les intérêts du sucre ou des services ou s'installent, s'imposent à Cuba.
C'est ce qu'explique bien d'ailleurs au tout début de l'aventure castriste, Chris Marker, le grand Chris Marker, qui fait un film qui s'appelle « Cubaci », dont d'ailleurs la projection a été interdite en France, curieusement, pendant 2 ans. C'est un film de 1961. Je crois que Chris Marker, d'ailleurs, l'a quelque peu désavoué ensuite, peut-être à cause de son enthousiasme pro-castriste. En tout cas, c'est de ce documentaire qu'on peut extraire le morceau suivant.
La canne à sucre est la meilleure et la pire des choses. D'un côté, c'est une hydre bienfaisante. On la coupe et elle repousse jusqu'à 20 fois. Pour assurer la récolte de ce débit, le gouvernement au complet, y compris le président de la République d'Orticos et le ministre des Affaires étrangères Raoul Roa, donnait l'exemple d'une mobilisation civile où les citadins firent preuve d'une saine émulation à défaut de technique. Mais la canne à sucre, c'était aussi un piège pour Cuba. Dans cette terre fabuleusement riche où l'on peut tout faire pousser, l'influence étrangère avait fait proliférer monstrueusement la culture de la canne. Au lieu de répondre à la diversité de ses besoins par la diversité de ses produits, Cuba était en proie à un cancer du sucre. De plus, le système du quota faisait absorber toute cette production par un seul marché, celui des États-Unis, ce qui, sous une apparence favorable, revenait à mettre l'économie cubaine dans la dépendance absolue d'une économie étrangère. Lorsqu'il devint bien évident que Cuba voulait se soustraire à cette dépendance, les États-Unis ripostèrent par le blocus économique et la suppression du quota. Donc, Castro entreprit de vendre son sucre au pays de l'Est. Donc, on l'accusa de s'être vendu aux Russes. C'était l'une des deux accusations de base. L'autre était l'absence d'élection. Et l'on pouvait en effet s'étonner que Castro ne fît pas sanctionner dans les formes une popularité éclatante.
C'est l'occasion, Yves Saint-Jour, de rappeler avec quelle détermination, avec quelle intensité, avec quelle absence de vergogne aussi. Souvent, les États-Unis ont mis leur emprise depuis l'indépendance, entre guillemets, jusqu'à l'arrivée du castrisme. Ils sont intervenus d'ailleurs plusieurs fois militairement à Cuba, en 1907, en 1912, en 1917. Et en 1906, le président Theodore Roosevelt, dont nous parlions, qu'il ne faut pas confondre naturellement avec le président Franklin Roosevelt de l'entre-deux-guerres, écrivait « En ce moment, je suis tellement exaspéré par cette infernale petite république de Cuba, que j'aimerais pouvoir l'effacer de la carte du monde, rien que ça. Tout ce que nous lui demandions était d'être prospère et heureuse, et de se conduire de manière que nous n'ayons pas sujet d'intervenir. Et voilà, hélas, qu'elle complique la situation au point de nous obliger à le faire, ce qui convaincra aussitôt ces idiots soupçonneux d'Amérique du Sud qu'après tout, nous ne demandons qu'à intervenir. » Fin de citation.
Ben voilà, je crois que c'était sans phare, en quelque sorte, que les choses se passaient.
C'est une lettre privée.
Voilà. Enfin, c'est bien au nom de ces principes qu'ils intervenaient. Et la question, évidemment, c'est que pendant toutes ces décennies qui séparent 1899 des années 50, l'emprise américaine, des entreprises, des propriétés, se fait presque complète. Alors, je ne sais pas si c'est une domination absolue, comme dit le documentaire de Chris Marker, mais en tout cas, on peut considérer que les 2/3 de l'activité économique étaient entre les mains d'intérêts américains.
Il y a un ambassadeur qui, d'ailleurs, sans se hausser trop du col, explique qu'il est l'homme le plus puissant de Cuba, même avant le dictateur Batista, dont il faut dire un mot, d'ailleurs, Batista.
Oui, bien sûr. Alors, cela dit, quand même, c'est une indépendance qui a été kidnappée, comme je le disais. Et donc, les problèmes restent les mêmes et la population continue de s'émouvoir. Et je dis ça d'une façon un peu limitée. En réalité, il y a des mouvements, il y a des petites guérillas, il y a des activités un peu révolutionnaires un peu partout. Et il y a certes des élections, il y a certes une constitution, et progressivement, on a des alternances, une alternance entre des dictateurs. C'est le cas d'un dictateur très particulier qui s'appelle Machado, entre 1925 et 1933. Pour bien comprendre Machado, il faut lire un magnifique roman d'Alejo Carpentier qui s'appelle « Le recours de la méthode ». C'est pas le discours de la méthode, c'est le recours. Rien n'est moins cartésien que l'Amérique latine, dit-il. Et il explique très bien comment un Machado, qui avait travaillé pour la General Electric, mais qui avait été aussi un peu un révolutionnaire lors de la guerre d'indépendance à la fin du 19e siècle, il joue sur les deux registres. Il joue sur le registre de la modernité et puis il joue sur des registres beaucoup plus anciens, traditionnels, de clientélisme et de brutalité. Et on l'appelle le boucher. Et il réprime, etc. Et puis il est obligé de partir, il y a une révolution, des choses nouvelles apparaissent, on veut abroger l'amendement Platt, on crée un ministère du Travail. Et c'est ainsi que progressivement apparaît quelqu'un qui, pendant un temps, va sembler être un bon démocrate, qui est Fulgencio Batista.
Il était un sergent.
C'est un sergent qui devient le chef de l'armée, ça c'est... Il y a un côté Tintin, évidemment, dans tout ça, mais c'est un homme très rusé, très intelligent
Vous
aussi.
Vous pensez au général Alcazar ?
Oui, un petit peu. Il y a des côtés comme ça. Il ne faut pas réduire, parce que ce serait très péjoratif et ce serait très condescendant, mais c'est vrai que cet homme, Batista, va très vite devenir l'homme fort de Cuba pendant cette période. Il va même apparaître comme un bon démocrate, puisqu'il va être élu en 1940. Il va même prendre deux ministres communistes. On verra que ça a une certaine importance en 42. Et puis, il va laisser sa place en 44. Et il revient en 52 à la suite d'un coup d'État. C'est-à-dire, là, il fait un coup d'État et il va rester de 52 jusqu'au 31 décembre 58, où, après avoir effectivement fêté le réveillon, il s'en va et il laisse la place à la Révolution.
Sinistre réveillon pour lui et bonheur ouvert aux yeux de beaucoup de Cubains. Surgit alors Fidel Castro, dont bien sûr nous allons avoir à parler. Et tout de suite, sa voix, c'est un extrait d'un de ses discours. C'est en espagnol, mais vous nous traduirez les éléments. C'est un espagnol qui peut, à vrai dire, se comprendre parfois assez aisément. Il s'agit de la révolution, il s'agit de la liberté.
Fidel !
Compañeros y compañeras, la revolución les ofrece trabajo, sacrificio, lucha. La revolución al revolucionario no ofrece privilegios. Los privilegios son para los blandos, para los revolucionarios. La historia solo tiene una cosa que ofrecer. La patria solo tiene una cosa que ofrecer. Sacrificio, lucha, patria o muerte, venceremos. ¡Viva el Partido Unido de la Revolución Socialista!
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Faut-il traduire, Yves Saint-Jour, la patrie ou la mort, vive la révolution, la patrie socialiste, etc. Vous pouvez peut-être nous traduire le reste, mais enfin...
C'est effectivement assez simple à entendre. Et j'ajouterais que la révolution n'offre à ceux qui la pratiquent que des sacrifices. Et les privilèges, c'est pour les mous, c'est pour les autres. Et effectivement, c'est important de revenir sur la fin de la période, parce que l'arrivée de Castro, de Guevara, etc., à partir du 1er janvier 1959 à La Havane, après leur grande épopée, qui part presque 800-900 kilomètres à l'est et qui va jusque dans une marche progressive et triomphale après un début très compliqué, très difficile.
Oui, l'échec d'un assaut sur une caserne.
Oui, l'échec de l'assaut sur la caserne de Moncada en 1953 et la grande caserne de Santiago de Cuba. Et là, il a été prisonnier, il a été libéré, il est parti, il est réintervenu en 1956 avec 80 révolutionnaires. Et ce sont seulement 16 personnes qui se retrouvent dans la Sierra Maestra, parce que même leur nouvelle arrivée, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de difficultés. C'est vraiment un tout petit noyau qui va progressivement, en deux ans, hein, l'année 57, l'année 58, qui va en deux ans progressivement conquérir Cuba, parce qu'effectivement la situation y est incandescente.
On voit bien d'ailleurs dans cet extrait que nous avons donné qu'au début cela a été autant une révolution morale qu'une révolution sociale.
Absolument, parce qu'à la fin des années 50, il faut reconnaître que, voilà, à Cuba, c'était là qu'on allait boire, qu'on allait jouer.
Et le reste, comme voilà. On disait chez La Fontaine.
Et le reste, absolument, et le reste. Et c'est vrai que ça arrive comme un peu comme une révolution aussi morale, puisqu'il y a ces grands intérêts, il y a cette population qui est dans les latifundios ou dans les usines, etc. Et puis, il y a effectivement ces révolutionnaires qui vont faire cette marche vers la Havane et qui vont finir par l'emporter à partir de leur réduit de la Sierra Maestra. Voilà, voilà comment les choses se font. Et effectivement, la révolution s'impose à partir de ces combats. Mais évidemment, pour en arriver à une révolution socialiste, ça ne s'est pas tout à fait passé en deux jours. C'est un tout petit peu plus compliqué que cela.
Néanmoins, il me paraît important de rappeler ces origines spécifiques de la révolution castriste quand on considère ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire que les Américains, se rapprochant de Cuba progressivement, poussés par, encouragés en tout cas par le Vatican. On peut noter que le cardinal de La Havane, le cardinal que je citais tout à l'heure, Jaime Ortega, a tenu à faire savoir, par le truchement de notre ambassadeur à La Havane, Jean Mendelssohn, a tenu à faire savoir à l'avance, au Quai d'Orsay, aux Français, que les autorités catholiques, le Saint-Siège, avaient joué un rôle important. Donc, il y a encore une coloration morale.
Oui, il y a encore une coloration morale. Évidemment, Cuba, qui a peut-être été moins... au fond sous l'emprise catholique que le reste de l'Empire espagnol, mais qui est quand même un lieu de la latinité, de la catholicité.
Avec une visite fameuse de Jean-Paul II qui a été accueilli par Fidel Castro, qui avait mis une cravate à cette occasion.
Absolument. D'ailleurs, il n'y a pas seulement l'Église catholique, hein, puisqu'il y a toutes les autres églises qui peuvent être tolérées et puis, ou acceptées. Et puis, il y a aussi bien les cultes traditionnels qui sont afro-américains, puisqu'il y a aussi ça à Cuba. En tout cas, c'est vrai que dans cette aventure qui commence, il y a le rejet de cette histoire de la fin des années 50, qui sont des histoires de corruption, de gros intérêts. Il y a même des choses absolument tragiques. Il y a un journaliste cubain qui dénonçait la corruption, qui s'appelait Eduardo Chiba, si je me souviens bien, et qui, à la fin d'un discours à la radio, se tire une balle dans la tête. C'est-à-dire, oui, il y a une espèce de sacrifice pour dénoncer l'état moral du pays.
C'est une exaltation maximale.
C'est effectivement une exaltation maximale, mais qui aussi joue sur l'affectif en Amérique latine, qui a quand même son importance.
On doit, Yves Saint-Jour, rappeler comment... Très peu de temps, cette révolution qui avait acquis beaucoup de sympathie chez de nombreux cercles américains, chez des intellectuels et pas seulement, en tout cas du côté du Parti démocrate, a glissé vers le marxisme-léninisme. C'est voulu rattacher au camp soviétique, de fait, sous l'effet peut-être de ressorts internes, mais aussi sous l'effet de la conjoncture générale et de la pression américaine, la méfiance américaine à son tour dans un deuxième temps.
Absolument. C'est-à-dire, dans un premier temps, et avant la révolution elle-même, il y a, disons, une neutralité, y compris bienveillante. Il y a des articles qui parlent de Fidel Castro, comme d'un Robin des Bois, etc., dans le New York Times.
C'est important à savoir aujourd'hui.
C'est très important. Il y a le fait qu'il y a un vide politique complet, il y a vraiment cette crise morale évidente. Donc, il y a, disons, une situation qui permet, malgré les grands intérêts américains, de ne pas considérer cette arrivée comme tragique de la part des Américains. Mais il ne faut pas oublier non plus que Fidel Castro, au départ, n'est pas un communiste. Il y a un parti communiste à Cuba, dont il ne fait pas partie. Et donc, il n'apparaît pas comme un communiste.
Mais il y a l'influence d'un personnage, l'autre personnage majeur de toute cette histoire, qui est évidemment, dans l'ordre du concret et dans l'ordre du mythique, Che Guevara.
Bien sûr.
Et qui est beaucoup plus à gauche à l'origine, cet Argentin.
Bien sûr, il est tout de suite, lui, très à gauche. Il devient très vite, dans le gouvernement qui vient de s'installer, l'homme de la réforme agraire, puis l'homme de l'industrie, puis l'homme de la planification. Donc il a une ligne, elle, qui est directement à gauche. Et c'est vrai que dès les premiers mois de 1959, on fait la réforme agraire, on commence à distribuer des terres. Évidemment, les intérêts vont commencer à être touchés très directement. Et progressivement, la situation, Castro va aller deux fois aux États-Unis. Une fois en 59, au printemps, une deuxième fois même en 60.
Mais il n'est pas reçu par le président Eisenhower, voilà, dont le mandat s'achève.
Voilà, absolument.
Il en est d'ailleurs meurtri.
Oui.
On a l'impression qu'il y a vraiment une dialectique qui a échappé en partie peut-être aux acteurs. C'est-à-dire que plus Castro prenait ses distances, plus l'Amérique s'en inquiétait, plus Castro se sentait isolé, plus il a été amené à se tourner vers l'URSS et du même coup à s'affirmer décidément aux yeux de Washington comme un adversaire.
C'est exactement ce qui se passe, et ça se fait en moins de 3 ans, cette évolution, avec des réformes, des expropriations, et à chaque fois, il y a une initiative et il répond une autre initiative, c'est-à-dire des commencements d'embargo, des commencements de... Voilà, et petit à petit, les choses se défont. Évidemment, de l'autre côté, les Russes, qui n'étaient pas particulièrement d'accord, ni même sur les stratégies de guérilla avant la Révolution...
Communisme tropical...
s'y intéresse de plus en plus, et ça d'autant plus qu'il faut aussi regarder toute la géopolitique. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est un moment difficile, c'est la rupture avec la Chine. Donc, les Russes commencent à s'intéresser à leur influence dans d'autres régions. Donc, petit à petit, il y a toute une mécanique qui se met en place et qui, en quelques années, va faire basculer complètement d'une part, le marxisme-léninisme. Fidel Castro déclare à la fin 1961 « Je suis un marxiste-léniniste, je mourrai marxiste-léniniste ».
On verra.
Ça a l'air de se présenter comme ça. Et donc, ça y est, la boucle est bouclée. Et évidemment, Cuba est entré dans cette nouvelle orbite.
Alors Yves Saint-Jour, deux moments essentiels dans l'histoire que nous évoquons, celle de Cuba et de ses relations avec les États-Unis d'Amérique. Il y a l'essai qui se termine de façon un peu dérisoire d'invasion par des exilés castristes de l'île, ce qu'on a appelé la baie des cochons, et puis ensuite la crise qui a menacé, à vrai dire, la planète tout entière d'une explosion, c'est la crise de Cuba. C'est le seul moment où, au temps de la guerre froide, on a vraiment eu le sentiment qu'on pouvait frôler un désastre absolu. D'abord, la baie des cochons. Les exilés ont joué un rôle important.
Les exilés ont joué un rôle important et en réalité continuent de jouer un rôle important dans la relation États-Unis-Cuba.
Il faut aujourd'hui
pas oublier,
encore.
Aujourd'hui encore. Et en réalité, Cuba, c'est une affaire de politique intérieure aux États-Unis parce que beaucoup de gens sont partis, des dizaines de milliers en 59, ils se sont installés en Floride. La Floride, qui est un État qui tantôt vote démocrate, tantôt républicain, l'État aussi du frère de George Bush, c'est un point très important de toute cette histoire.
On le voit d'ailleurs dans la campagne électorale qui oppose Kennedy à Nixon.
Absolument.
Kennedy avait été assez ouvert, puisque dans un livre de 60, La stratégie de la paix, il avait même comparé Fidel Castro à Simon Bolivar, ce qui était en Amérique latine et dans l'esprit de Kennedy un véritable compliment. Mais une fois installé à la Maison Blanche, il dit à un moment donné à un collaborateur, nous ne pouvons pas continuer à vivre plus de 10 ans avec ce cancer de Fidel Castro, ce cancer.
Et en réalité, Kennedy devient président en janvier 1961 et c'est 3 mois après, en avril 1961, qu'a lieu la tentative de débarquement dans le sud de l'île de la baie des cochons, de la Playa Girón, et où effectivement ça va être un fiasco complet. Et ça va être aussi pour le régime qui s'est installé, imposé, un moment d'affirmation, d'indépendance et de radicalisation dans une certaine mesure, puisqu'ils sont effectivement menacés par les Américains.
Cette affaire donne le sentiment d'avoir été conduite par des branquignols, à vrai dire. Écoutez ce témoignage d'un Cubain anticastriste qui a fait ce débarquement et qui nous parle en français, un assez bon français.
Et j'ai resté à Guatemala jusqu'à le 12 avril que nous sommes passés à Nicaragua. De Nicaragua, nous sommes allés à Playa Girón dans un bateau infect, plein d'explosifs, entouré d'essence d'aéroplane. Qu'une allumerette aurait pu faire explosion et nous aurait volé tous.
L'expédition était mal préparée. Alors.
Extrêmement mal préparée. Je pourrais dire même qu'elle était extrêmement préparée et faite exprès.
Pourquoi ?
Parce que c'est difficile croire à tellement de stupidité et des organisations.
Mais dans quelle intention croyez-vous qu'on aurait fait exprès de faire échouer l'expédition au départ ?
Oh, pour faire une espèce de Hongrie cubaine, peut-être, qui sait ?
Pour provoquer un choc psychologique dans l'opinion
mondiale. Exactement.
Alors, comment ça s'est passé quand vous avez débarqué ?
Moi, j'ai débarqué à 9 milles de la côte, on ne voyait pas la côte. Dans un petit bateau qui n'avait pas plus de 15 pieds de ce qu'on appelle en anglais « fiberglass ». À l'aube, mais je suis arrivé complètement à cet jour quand je suis arrivé, et les aéroplanes déjà étaient en train de nous tirer.
Vous n'aviez pas de protection aérienne qui vous...
Oh non, pas du tout. Nous avions des machine guns, comment on dit ça en français ?
Mitrailleuses.
Des mitrailleuses, n'est-ce pas ? Calibre 50 qui était même mal placée. Une d'elles, quand on a commencé à tirer avec elle, elle est tombée à l'eau. Et avant de tomber à l'eau, elle a tué une personne et a vraiment blessé très gravement trois personnes. Mitrailleuse calibre 50.
Et vous aviez des tanks tout de même.
5 tanks, n'est-ce pas ? C'était complètement ridicule. 2 d'entre eux ne fonctionnaient pas bien.
Vous avez cependant progressé au début.
Nous avons progressé énormément. Nous avons avancé jusqu'à presque 50 km dedans. Et nous avons gagné la guerre vraiment jusqu'à 65 heures de suite.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Nous n'avions plus de balles. On ne peut pas faire la guerre avec des mitraillettes, n'est-ce pas, de calibre 45. Ils étaient en train de nous tirer avec des canons à distance, 24 milles de distance. Alors, on ne peut pas vraiment se défendre avec des balles 45, n'est-ce pas ?
Et quelle est la leçon que vous tireriez de cette expérience-là ?
Il faut recommencer.
Vous croyez que vous pouvez abattre le régime de Castro par des expéditions ?
Pas moi, mais si nous le faisons tous, oui.
Ce témoin pense que... un autre débarquement réussira, peut-être mieux organisé. Ça n'a pas été le cas.
Non, vraiment, ça n'a pas été le cas. Cet équipé, en quelque sorte, est un moment clé, parce qu'il permet au régime de s'affirmer. Kennedy, d'ailleurs, assume entièrement la responsabilité de ce fiasco. Et on entre dans une nouvelle période. C'est là, tout de suite après, qu'on s'aligne complètement sur l'Union soviétique. Et donc... que de nouvelles choses apparaissent, dont ce qui se passe l'année suivante, et qui va être l'installation des rampes de missiles soviétiques à Cuba.
Et là, on arrive au moment où ces relations que nous évoquons entre Cuba et les États-Unis prennent leur portée véritablement universelle.
Absolument, parce qu'il y a une espèce de mobilisation mondiale autour de cette affaire. Et comme vous l'avez dit, il y a un moment où on se demande si ça ne va pas basculer dans la guerre mondiale, qui évidemment serait une guerre nucléaire, parce que sont installées des batteries au nord-ouest de Cuba, c'est-à-dire avec des fusées qui ont 1800-1900 km de portée, qui donc peuvent toucher sans aucun problème une partie du territoire américain. Et puis d'autres, d'ailleurs, il n'y a pas seulement ces batteries-là, il y en a un petit peu partout. Un U-2 qui vole à 20 000 mètres d'altitude les voit et commence effectivement une crise très grave entre les États-Unis et l'Union soviétique qui va aboutir au retrait des rampes en question.
Après des moments de véritable angoisse.
La contrepartie, c'est le fait que les États-Unis n'agresseront plus jamais Cuba. De fait, les États-Unis n'ont jamais plus essayé d'envahir Cuba.
Et symboliquement, effectivement, on donne une satisfaction moins apparente en retirant de vieilles fusées de la Turquie américaine.
Voilà, exactement. D'Italie aussi, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, l'honneur est sauf pour les uns et pour les autres. Y en a un qui n'a pas beaucoup aimé, c'est Castro. Parce que Castro, qui semble, d'après les correspondances, avoir été un peu jusqu'au boutiste dans cette affaire, n'a pas été, en réalité, intégré dans la discussion entre les deux grandes puissances sur ce sujet. Et on a pris la décision sans lui en parler, en quelque sorte.
On peut ajouter d'ailleurs que Cuba ne va pas être exempt de conséquences également douloureuses, puisque c'est à défaut de pouvoir envahir Cuba que les États-Unis décident de renforcer l'embargo. Il faut dire un mot de l'embargo, puisque c'est de lui qu'il s'agit de se débarrasser aujourd'hui, dès lors que les relations vont peut-être retourner vers la normalité entre Washington et La Havane.
Absolument. Dès 1960, commence en représailles, en quelque sorte, aux expropriations, à la réforme agraire, etc., commencent des embargos sur un certain nombre de produits. Et en 1961, on va exclure Cuba de l'organisation des États américains. Et puis ensuite, on va approfondir l'embargo en 1962, au point qu'effectivement, il y a cet embargo américain qui, en réalité, demeure jusqu'à aujourd'hui.
Et qui touche les entreprises étrangères qui n'ont pas le droit à la fois de commercer avec Cuba et avec les États-Unis.
Exactement. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, de la part des États-Unis, une sorte non seulement d'interdiction pour leurs propres entreprises, mais aussi d'interdiction pour des entreprises qui auraient des intérêts américains. Et donc, on voit bien ce qui s'est passé récemment pour des banques qui peuvent avoir été pénalisées. Parce que cet embargo, il a été transformé en une loi qui s'appelle la loi Helms-Burton en 1996.
Helms, c'est un sénateur républicain influent.
Clinton laisse au Congrès, en quelque sorte, le soin de gérer cet embargo dans une certaine mesure. Et pour lever cet embargo complètement, il faudra que le Congrès se décide, puisque c'est entre ses mains que sont les...
C'est les limites. Il s'agit des limites actuelles de la possibilité d'Obama de renverser la vapeur. Et puis il y a une date essentielle, c'est 1989-90, la chute du mur, qui fait que Fidel Castro perd ses points d'appui du côté du monde communiste. Et du même coup, on voit s'accélérer les difficultés économiques du pays, où il se peut que le gouvernement lui-même ait eu ses responsabilités, à vrai dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est important, vu d'aujourd'hui.
De fait, on était dans une dépendance des États-Unis, on était passé dans une dépendance de l'Union soviétique, notamment pour le sucre, qui était acheté à des prix préférentiels avec des échanges, etc. Et la situation va très vite se dégrader. À partir de ce moment-là, à partir des années 90, Cuba est confronté à une crise économique. Au début des années 2000, le Venezuela apparaît comme un élément qui va permettre à Cuba de s'en sortir grâce au pétrole, grâce aux moyens qui lui sont alloués. Puis de nouveau aujourd'hui, le Venezuela est en crise. Donc il y a vraiment une question économique et sociale, du coup, grave à Cuba, qui a besoin de trouver un chemin pour le développement.
Après 89, Fidel Castro a promis de lutter sans répit jusqu'à sa mort pour le socialisme. Si le destin nous assigne le rôle de rester un jour parmi les défenseurs du socialisme où l'impérialisme yankee aurait réussi à réaliser le rêve d'Hitler de dominer le monde, nous saurons défendre ce bastion jusqu'à la dernière goutte de sang.
Moi, ce que j'ai envie de dire face à cela, c'est assez simple. C'est, au fond, il y a une fierté nationale cubaine très forte, Marti, la révolution, et le mur est tombé, mais Cuba n'est pas tombé dans une certaine mesure. Et on se retrouve 50 ans après avec Fidel et Raoul et avec l'embargo. Et les Cubains, quand ils apprennent, j'imagine, quand ils apprennent la fin de l'embargo, ça va les soulager énormément, puisqu'il va y avoir des possibilités beaucoup plus grandes de circulation, d'échange, de commerce, etc. Mais ils ont aussi le sentiment d'avoir gagné, quelque part. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là.
Il reste évidemment à se demander, Yves Saint-Jour, si le rétablissement de relations normales ou quasi-normales entre les États-Unis et Cuba peut aboutir à une évolution de la situation des libertés publiques qui ont souvent été maltraitées à Cuba. Cela explique aussi pourquoi un certain nombre d'intellectuels français et européens qui ont eu un moment d'amour fou pour Cuba ont ensuite reculé. Si ces libertés publiques progresseront comme conséquence d'un progrès de relations avec Washington.
En réalité, c'est présenté comme ça, bien sûr, par les États-Unis, système contre système. Et de fait, le régime du parti unique, même s'il y a des petits partis un peu faire valoir, le régime sans liberté de la presse, il n'y a que deux journaux.
Prisonniers politiques, on vient d'en libérer.
Cuba vient de libérer 53.
Symboliquement.
Prisonniers politiques. Il y en a eu beaucoup, beaucoup plus autrefois. Il y en a finalement aujourd'hui, semble-t-il, très peu. Eh bien, tout ça doit impliquer une évolution du régime des libertés publiques. Et c'est ça qui va être au cœur de la discussion dans les mois et les années qui vont venir, parce que les uns demanderont la liberté totale du commerce, des investissements, etc. Et ça, c'est Cuba contre l'embargo américain. Et de l'autre, évidemment, tout le monde vérifiera si les libertés publiques sont totalement restaurées à Cuba.
C'est évidemment un aspect central quant à l'histoire que nous venons de retracer Yves Saint-Jour.
Ça fait aucun doute que c'est parfois un prétexte, mais en tout cas toujours le cœur d'une discussion sur les valeurs, les principes et le fonctionnement de la démocratie dans une Amérique qui est démocratique, entièrement démocratique, du Nord jusqu'au Sud.
Merci beaucoup Yves Saint-Jour. Vous avez, entre de nombreux écrits, vous avez collaboré au livre de François Chevalier dans la collection Nouvelle Clio, très précieuse en 1993, L'Amérique latine de l'indépendance à nos jours. Nous avons aussi fait fond sur la biographie de Jean-Pierre Clerc, fidèle de Cuba, paru chez Ramsay en 88, et aussi sur celle de Pierre Calfon sur Che Guevara. Nous n'avons pas beaucoup parlé de Che Guevara, il y a toute la dimension internationale aussi du rôle de Cuba.
Ah oui, bien entendu, et Che Guevara est une personnalité dont il faut parler en tant que tel, puisque il semble bien qu'il se soit quand même séparé de Fidel Castro. Il part, il s'en va, il disparaît, il va au Congo, puis il va engager la lutte révolutionnaire ailleurs, en Bolivie, où il va trouver la mort en 1967, à partir de la théorie du Foucault, qui est cette idée de faire à la campagne un petit groupe révolutionnaire qui va progressivement gagner le combat. Ça ne va pas marcher, les paysanneries ne vont pratiquement jamais suivre les révolutionnaires, sauf dans la Sierra Maestra, effectivement, dans les années 57-58. Comme le disait Régis Debray, il y a une grande différence entre ces deux personnalités. Il explique dans « Loué soit le Seigneur », Fidel Castro est un politique, il veut durer. Che Guevara est un mystique, il veut mourir.
D'où probablement son mythe. Loué sont nos seigneurs, ce sont des souvenirs de Régis Debray qui restent très précieux, histoire de formation d'une génération. Et vous trouverez bien sûr une bibliographie plus complète sur notre site, avec nos références pour les documents que nous avons utilisés. Et vous pourrez également écouter, réécouter et télécharger pour la très longue durée cette émission. Cela permettra de confronter l'esquisse de nos prévisions avec ce qui arrivera demain et après-demain. Samedi prochain, nous parlerons, et là nous allons inaugurer une série d'émissions consacrées à la remise en perspective historique des événements qui ont bouleversé la France au début du mois de janvier. Nous allons parler de la liberté de la presse, une conquête fragile avec Patrick Evenot. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur, avec aussi Jeanne Guéroux, une émission réalisée cette semaine par Sylvain Richard, avec Pierrick Monsigny à la prise de son, Romain Couturier à la discothèque et Yves Gaillard pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et maintenant, je passe le relais, je passe le témoin à Dominique Rousset et à ses invités pour l'économie en question.